Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, le mois de novembre qui revient nous fait penser à nos chers défunts, et par contre-coup, au purgatoire. Le purgatoire, terrible réalité, qu'aucun de nous ici ne remet en doute, du moins quant à son existence, mais quant à sa nécessité. Eh oui, qui d'entre nous ne s'est jamais posé la question, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pourquoi prier pour une personne qui serait morte tout juste après s'être confessée? Pourquoi passerait-elle par le purgatoire? Elle vient juste de se confesser. Pour bien comprendre le purgatoire, il nous faut nous intéresser à la troisième partie du sacrement de pénitence, à savoir la satisfaction ou pénitence sacramentelle. Voyons d'abord sa nécessité et puis ce qu'elle est. Nécessité. Pourquoi nécessité? Eh bien, voyons ce qu'est le péché. Le péché, c'est une offense à Dieu. Tout le monde le sait. Une offense. Une offense qui consiste en ce que la volonté de l'homme se détourne de Dieu pour se porter vers quelque bien périssable. Soit encore un double mouvement. Le premier, une aversion du bien total immuable, Dieu. Le deuxième, un attachement exagéré à un bien partiel périssable. Double mouvement qui nous vaut donc, c'est logique, une double peine. Une peine éternelle, une peine temporelle. Le premier mouvement, l'aversion du bien immuable de Dieu, ne se trouve que dans le péché mortel. En effet, dans le péché véniel, le pécheur ne se détourne pas de Dieu. Disons qu'il infléchit sa route, qu'il ne va plus tout droit vers le ciel. Cela reste quand même un désordre, et surtout une offense à Dieu. Mais Dieu lui-même, n'est pas rejeté. Dans le péché mortel, au contraire, le pécheur se détourne totalement du bien absolu qu'est Dieu, pour lui préférer un bien spécial, particulier, partiel, périssable. Il va tourner délibérément le dos à Dieu et s'exclure par le fait même du ciel, qui, rappelons-le, est un face-à-face avec le bon Dieu. C'est là le suprême désordre. C'est surtout la suprême injure. Et comme à la mort, la volonté du pécheur se fixe définitivement, ici, dans cette aversion de Dieu, sa peine ne peut qu'être éternelle. Et sa justice, celui qui s'est détourné du bien éternel, mérite d'en être éternellement privé. Bien, et le deuxième mouvement? Oui, l'attachement exagéré à un bien partiel périssable. Malheureusement, il se trouve dans tous nos péchés, même les péchés véniels. Et lui aussi nous vaut une peine, mais une peine cette fois qui sera temporelle. Pourquoi? Il est important de comprendre qu'il s'agit ici d'une loi de la nature, et non pas d'une volonté arbitraire de Dieu qui viendrait brimer et contraindre notre liberté. Si on ne comprend pas cela, on risque fort de se révolter, ou du moins de n'avoir rien à répliquer à quelqu'un qui se révolterait contre Dieu. Non, c'est normal, c'est naturel. Même les païens, uniquement par la contemplation de cet ordre naturel, avaient déjà compris cela. Le désordre de la faute ne peut être ramené à l'ordre de la justice que par une peine. Voici ce qu'en disait Aristote. Tout ce qui s'élève contre quelque chose doit subir de la part de cette chose un dommage ou un préjudice. Donc il est juste et naturel que celui qui a accordé à sa volonté plus qu'il ne devait subisse une contrainte qui enlève quelque chose à sa volonté afin de rétablir l'équité. Et Dieu, créateur de toutes choses, doit à sa sagesse de respecter les lois et la nature de sa création. Si donc, dans la confession, notre Seigneur va pouvoir nous remettre la peine éternelle en nous rendant son amitié par la grâce, il reste, du moins il peut rester, une dette de peine temporelle, nécessaire pour rétablir l'ordre lésé et rétablir ainsi la justice. Objection, votre honneur. La passion du Christ n'est-elle donc pas suffisante pour obtenir la rémission de toute la dette de peine, temporelle aussi bien qu'éternelle? Ou le sang du Christ n'a-t-il pas suffi? Certes oui, mais dans le sacrement de pénitence, différent en cela du baptême, l'homme ne bénéficie de la vertu de la passion, et ça, il est très important de bien le comprendre, l'homme ne bénéficie de la vertu de la passion que dans la mesure de ses propres actes, qui sont la matière du sacrement. C'est pourquoi le premier acte de la pénitence, la contrition, qui remet la faute, ne remet pas aussitôt la dette de toute la peine, jusqu'à temps que les autres actes de ce sacrement, à savoir l'accusation et la réparation ou satisfaction, ne soient accomplis. Et c'est la valeur de notre satisfaction qui déterminera la durée de notre purgatoire, celui-ci ne faisant que compléter ce que notre indolence, notre paresse, a laissé inachevé. Alors, intéressons-nous d'un peu plus près à cette troisième partie du sacrement de pénitence, si importante, nous en voyons les conséquences, mais si souvent oubliée. Et demandons-nous, qu'est-ce que la satisfaction? Formellement, un acte de justice. La satisfaction, c'est la compensation de l'injure adressée à la personne offensée. Alors que l'injure avait rompu l'équilibre de la justice et par conséquent brisé l'amitié, la satisfaction rétablit l'équité et renoue l'amitié. Bien. Cependant, une difficulté demeure. Qui dit justice, compensation, dit peine proportionnée à l'offense. Vous comprenez bien que si vous allez voler 1 million et que vous rendez 5 centimes, il va y avoir un problème. On ne peut pas parler de compensation. L'équilibre n'est pas retrouvé. Or, s'adressant à Dieu, le péché a quelque chose d'infini, puisqu'il offense quelqu'un d'une majesté infinie. De soi donc, et en stricte justice, notre compensation devrait être infinie, ce qui nous est impossible. Alors, eh bien, le bon Dieu va venir au secours de notre faiblesse. Deus caritas est. Son amour n'exigera pas d'équivalence absolue. Il daignera se contenter de ce que l'homme peut lui donner. Cela suffit pour que la justice soit sauve et la satisfaction agréée. La satisfaction deviendra suffisante à ses yeux, mais grâce à la vertu sacramentelle. Et voilà pourquoi la satisfaction fait partie intégrante du sacrement de pénitence. Et voilà pourquoi aussi, il faut qu'elle soit déterminée par le ministre du sacrement, puisque c'est à Dieu lui-même, l'offensé, via son ministre, de déterminer ce qui paiera la dette et restaurera l'amitié. Donc de soi, une pénitence, même légère, qui est imposée par le prêtre en confession, va davantage réparer qu'une pénitence que vous pourriez vous imposer, mais de votre propre volonté. Mais alors, pourquoi la pénitence imposée par le prêtre ne suffit-elle pas à remettre toute la peine? Eh bien, c'est d'une part que nous avons quitté ici le domaine de la justice pour entrer dans celui de la gratuité. Dieu regardera davantage au cœur qu'aux pratiques extérieures, et notre dette ne nous sera remise qu'à proportion de la ferveur avec laquelle nous accomplirons notre pénitence. Et ça, nous n'y faisons pas assez attention. Nous aurons attention, après la confession, à bien dire ce que M. l'abbé nous a donné. Les litanies, une dizaine de chapelets, peu importe. Mais est-ce que nous faisons attention à bien le dire ou à bien le faire? Parce que ce n'est pas anodin. D'autre part, le prêtre ne veut pas écraser son pénitent. Aussi, la plupart du temps, ne lui donne-t-il qu'une pénitence légère, laissant à son zèle le soin de compléter. Mais y pensons-nous? Enfin, la satisfaction devrait normalement s'étendre à tous les péchés, et nous sommes loin de tous les accuser en confession. Aussi, la Sainte Église, dans son intérêt maternel pour ses enfants, fait dire au confesseur une belle prière après l'absolution, très consolante. Peut-être y avez-vous déjà prêté attention, chers fidèles. Passio Domini Nostri Jesu Christi, etc. Par cette prière, le prêtre donne valeur satisfactoire à toutes vos bonnes actions, ainsi qu'aux souffrances endurées. Reste que nous sommes tellement pécheurs et si peu fervents qu'il est bon de rajouter quelques œuvres de satisfaction. Lesquelles? Comment choisir? Eh bien, avant même de choisir, quand peut-on parler d'œuvres satisfactoires? Il y faut trois éléments. Trois. D'abord, il faut que ce soit une œuvre bonne. C'est évident. Mais cette œuvre bonne, il faut qu'elle soit accomplie en vue de Dieu. Enfin, troisième élément, il faut que cette œuvre, elle soit pénale, c'est-à-dire qu'elle soustrait quelque chose au pécheur. N'oublions pas en effet que bien que le péché ne puisse réellement rien enlever à Dieu, intentionnellement, le pécheur cherche à lui ravir au moins son honneur, sa gloire. Comment cela? Eh bien, en lui refusant, pratiquement parlant, le titre de souverain bien. Cela se fait souvent inconsciemment, mais cela se fait quand même quand nous nous détournons de lui pour lui préférer, d'une manière désordonnée, un bien créé. Afin qu'il y ait compensation, il faut donc que quelque chose soit retiré au pécheur et rendu pour l'honneur de Dieu. Voilà pour l'œuvre satisfactoire en général. Maintenant, en particulier, comment choisir? Eh bien, ce qui va guider notre choix, ça va être le deuxième aspect, la deuxième finalité de la satisfaction. Nous aider à ne plus recommencer, à ne plus retomber. Chacun d'entre nous en avons l'expérience. Il est clair, il est évident, que si nous avons le courage de nous infliger une peine en rapport et proportionnée à la faute commise, et cela systématiquement, cela sera un frein puissant pour ne plus retomber. Ainsi par exemple, si celui qui tombe dans la gourmandise s'inflige un jeûne à chaque fois qu'il tombe, il est probable qu'il se corrigera plus facilement et plus rapidement que s'il se contente d'une simple prière récitée qui plus est mécaniquement. Et si celui qui tombe dans les péchés de la chair s'impose une douche froide à chaque nouvelle chute, celle-ci risque de s'espacer. Enfin, la Sainte Église, toujours aussi maternelle, va nous indiquer spécialement trois œuvres principales de satisfaction, le plus capable de réparer et nous préserver. Épouse de Jésus-Christ, elle sait ce qui touchera le plus aisément le cœur de son époux. Aussi, écoutons-la bien. Les principales œuvres satisfactoires sont l'aumône, le jeûne, la prière. En effet, nous l'avons vu, la satisfaction doit enlever quelque chose à l'homme pécheur au profit de l'honneur de Dieu. Or, l'homme possède trois sortes de biens, ceux de l'âme, ceux du corps et ceux de la fortune. Il va donc prélever quelque chose sur sa fortune par l'aumône. Il va prélever une part de ses biens corporels par le jeûne, mais les biens de l'âme, il ne peut rien en retrancher, puisque c'est par eux qu'il est agréable à Dieu. Alors, il va les soumettre totalement à Dieu par la prière. Entrons un peu dans le concret. Quelle aumône ? Quel jeûne ? Quelle prière ? Quel jeûne ? Eh bien, mais celui déterminé par l'Église, bien sûr, qui ne consiste qu'en un seul repas complet à midi et une petite collation le matin et le soir. Et voyez comme cela tombe bien. Tous les médecins s'accordent à dire que le jeûne ne tue pas, qu'il est même conseillé pour la santé. Et si on ne peut pas toujours jeûner au sens strict du mot, eh bien, faisons au moins l'effort de nous priver. Il est tellement facile de se priver d'un peu de sel, d'un verre de vin, d'un gâteau d'apéritif, d'un peu de sucre, d'un condiment, etc. Pour l'aumône, on peut toujours donner. Toujours. Et si, dans certaines circonstances, on ne peut pas donner d'argent, alors, eh bien, on peut rendre un service, c'est donner son temps. On peut donner aussi ses facultés, en aidant ceux qui en ont moins. On peut toujours donner un peu de joie, ne serait-ce que par un sourire. N'oublions pas que saint Paul nous recommande, dans son épître aux Corinthiens, de donner avec générosité. Celui qui sème peu, récolte peu. Donnons donc avec générosité, mais comme le dit saint Paul, surtout donnons avec joie, et non par contrainte. Enfin, la prière. Puisque nous sommes dans l'optique de réparer, eh bien, sachons user des trésors que Jésus-Christ nous a gagnés. Offrons ne serait-ce qu'une seule fois par jour ses plaies, son sang, son cœur, sa souffrance, sa passion, pour réparer nos péchés et ceux du monde entier. Et unissons-nous aux messes célébrées dans le monde entier pour offrir à Dieu la seule satisfaction qui lui agrée, complètement. Alors, pour terminer, que les peines et souffrances du purgatoire que la Sainte Église nous remet devant les yeux en ce mois de novembre nous aident à prendre plus au sérieux cette partie constituante du sacrement de pénitence que nous omettons si souvent et prenons si peu à cœur, à notre grand détriment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.